Voice of Indonesia.
Bonsoir à tous, comment allez-vous? Je suis très heureux de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Je vais vous accompagner pendant 60 minutes pour l'édition aujourd'hui, le 3 juillet 2019. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes et nous commençons par le journal, le commentaire, l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, apprendre l'indonésien et des chansons indonésiennes. Nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec le titre. Le prince saoudien en Indonésie pour investir. L'Indonésie leader dans le traitement des déchets plastiques. L'Agence nationale de lutte contre le terrorisme ou BNPT enverra des experts en Allemagne. L'ambassadeur du Canada a fait l'éloge de l'éducation indonésienne, priorisant la diversité et inclusivité. L'Agence pour l'économie créative explorera le potentiel de développement économique de la ville de Tomohon. Chers amis, nous présentons maintenant le journal complet. Le ministre coordinateur des Affaires maritimes, M. Luhut Binsar Panjaitan, a déclaré mardi à Jakarta que le prince Mohammed bin Salman, le prince héritier de l'Arabie Saoudite, se rendrait en Indonésie pour investir massivement en Indonésie. Cette question a été révélée par le prince Mohammed bin Salman lors d'une réunion bilatérale avec le président Joko Widodo au sommet du G20 à Osaka le week-end dernier. Selon M. Luhut, Aramco et Pertamina sont en train de finaliser une étude sur le projet de raffinerie de Cilacap. Ils ont nommé des consultants indépendants pour déterminer la valeur du projet de raffinerie. Si la raffinerie de Cilacap est réalisée, l'investissement total entrant en Indonésie atteindrait 7 milliards de dollars américains. Le prince a également promis d'investir immédiatement et massivement en Indonésie. Cela a été fait après la réélection du président Joko Widodo pour un second mandat. Le ministre de la Coordination des Affaires maritimes, M. Luhut Binsar Panjaitan, a apprécié le gouvernement japonais, représenté par le ministre japonais de l'Environnement, Tsukasa Akimoto, qui a récemment rencontré le ministre Luhut lors du sommet du G20. Selon le ministre Luhut, le ministre japonais de l'Environnement considère l'Indonésie comme leader en matière de traitement des déchets. C'est ce qu'a affirmé le ministre Luhut lors d'une discussion avec les journalistes intitulée Café Morning à Jakarta mardi, dans l'agenda de la table ronde au sommet du G20 avec des entreprises japonaises. Le ministre Luhut a également exprimé son intérêt à l'entreprise automobile de classe mondiale, Toyota, dont le projet entrera en Indonésie pour développer une voiture électrique. L'Agence nationale de lutte contre le terrorisme, ou BNPT, enverra des experts en Allemagne pour partager les expériences en matière de lutte contre le terrorisme avec l'agence criminelle allemande. Comme l'a déclaré le chef de l'Agence nationale de lutte contre le terrorisme, M. Suhardi Alius, après une réunion avec le vice-président de l'agence criminelle allemande, Michel Kretschmer, à Jakarta lundi. C'est la deuxième visite de BKA en Indonésie. Auparavant, cette agence avait visité le centre de déradicalisation à Sevenkirim, dans le nord de Sumatra. Le vice-président de l'agence criminelle allemande a déclaré que sa visite à BNPT visait à élaborer une coopération dans le domaine de la prévention du terrorisme. BNPT et BKA organiseront également des séminaires internationaux qui seront participés par les pays du monde entier. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. L'ambassadeur du Canada en Indonésie, Peter McArthur, a déclaré que l'éducation dans ce pays priorisait la diversité et luttait contre les inégalités. Cela a été transmis par l'ambassadeur lors de la 152e célébration de la fête nationale canadienne à Jakarta lundi. Dans son discours, il a déclaré qu'au cours des 3 dernières années, il avait aimé être conférencier dans diverses universités. Il voit que l'établissement d'enseignement dépendant de la diversité et inclusion de chaque personne, sans distinction de religion, d'appartenance ethnique, de sexe ou d'autre. En plus de souligner l'éducation dans ce pays, l'ambassadeur canadien a également souligné les progrès réalisés par les deux pays en développement. L'année dernière, le commerce bilatéral entre les deux pays a augmenté 24% pour atteindre 4 milliards de dollars américains. Les visites touristiques ont également augmenté des deux chiffres. En outre, l'ambassadeur a souligné l'engagement des deux pays à respecter toutes les obligations de l'accord de Paris visant à ralentir le changement climatique en protégeant les forêts, les terres, les tourbières et les mangroves. L'équipe de l'Agence pour l'économie créative au BECRAF explorera le potentiel de la région pour développer l'économie créative du gouvernement et de la communauté dans la ville de Tomohon, le nord de Sulawesi. C'est ce qu'a déclaré mardi le secrétaire régional de la ville de Tomohon, Harold Lolowang, à Tomohon. Les différentes professions qui sont incluses dans l'équipe de BECRAF sont consultants, les psychologues, les développeurs de produits, les concepteurs, architectes, artistes, photographes, vidéographes et anthropologues. Il a déclaré que le développement de l'économie créative dans la ville de Tomohon était basé sur le caractère unique et la sagesse de la culture locale existante. Tomohon dispose de nombreux potentiels qu'il est possible de développer pour soutenir et stimuler l'économie régionale par l'agent économique créatif, notamment le tourisme, le commerce, l'artisanat, les arts, la culture et l'agro-industrie. Un ce potentiel est développé par la créativité de la collaboration avec des artisans, des agriculteurs, des entrepreneurs, des artistes et des humanistes. C'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Voice of Indonesia.
Merci d'écouter la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le commentaire intitulé « Le président Trump dans la zone démilitarisée ». Après avoir assisté au sommet du G20 à Osaka au Japon, Donald Trump a enregistré une nouvelle histoire en tant que premier président des États-Unis à visiter la Corée du Nord. Bien que ces deux rencontres avec Kim Jong-un n'aient pas donné de résultats significatifs. Auparavant, Donald Trump a une impression particulière sur Kim Jong-un. Trump veut faire quelques pas dans la région nord-coréenne de la zone de démilitarisation, le village de Panmunjom, où plusieurs présidents avaient précédemment déclaré que la Corée du Nord était un pays diabolique. La voie s'est rapidement tournée vers la péninsule coréenne après quelques temps récemment, après que querelles américaines et iraniennes aient rendu la région de Moyen-Orient assez tendue. Bien que les tensions au Moyen-Orient ne soient pas encore terminées, la troisième réunion de Donald Trump et Kim Jong-un est devenue un oasis pour la réduction des tensions dans la péninsule coréenne. Les espoirs qui pourraient être anéantis à cause de l'échec de la première et la deuxième rencontre entre le président Donald Trump et chef suprême Kim Jong-un peuvent se reproduire. En effet, les relations entre ces deux dirigeants sont assez uniques. Dans son compte Twitter du 30 juin 2019, Trump souhaite en effet une réunion avec le chef Kim Jong-un pour se resserrer la main et dire bonjour. Kim Jong-un, à cette rare occasion, a déclaré que la réunion dans la zone de démilitarisation était le symbole d'une très bonne relation entre lui et Trump. Bien que les résultats de cette réunion ne soient pas encore clairs, cette réunion ne ferme pas toutes les possibilités de négociation pour résoudre le problème nucléaire nord-coréen. Nous attendons maintenant avec impatience si la réunion que nous pourrions convoquer, la troisième, se poursuivra avec la quatrième réunion qui est plus concrète, ou encore au niveau de la simple cérémonie. Nous espérons qu'ils ne seront pas seulement polis, ils se raconteront et il n'y aura aucun résultat par la suite. Chers amis, c'était le commentaire de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Voice of Indonesia.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici donc l'histoire d'aujourd'hui qui s'agit de vraiment important. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement. Le 3 juillet 1920, l'Institut de technologie de Bandung a été fondé. Le 3 juillet 1920, l'Institut de technologie de Bandung a été créé sous le nom de Technische Hogeschool de Bandung, ou plus communément abrégé en TH de Bandung. TH de Bandung est à la fois le premier collège technique et le premier établissement d'enseignement supérieur des Indes orientales néerlandaises. L'Institut a été créé à l'initiative de l'agence du secteur privé Institut voor Hoger Technisch Onderwijs à Nederlands Indië. TH Bandung a été ouverte pour la première fois avec une faculté, à savoir de faculté van Technische Wetenschap. L'autre information est sur le chercheur de la marine américaine a abattu le vol 655 d'Iran Air le 3 juillet 1988. Le navire de guerre américain Vincent a abattu un avion de transport de passagers iranien le 3 juillet 1988. Les États-Unis ont admis que la fusillade était en erreur car leurs troupes considèrent que l'avion de l'Iran Air de vol 655 était un avion de combat iranien. Iran Air Flight 655 est un vol Téhéran-Dubaï. L'avion a été abattu dans le golfe Persique par des missiles américains lancés par les croiseurs USS Vincent. Le gouvernement iranien a maintenant affirmé que l'USS Vincent avait délibérément abattu l'avion, tandis que les États-Unis, après l'incident, ont exprimé leur regret pour l'incident. Ils n'ont jamais formellement revendiqué la responsabilité, versé une indemnité ou présenté des excuses officielles à l'Iran à ce jour. L'accident a tué tous les passagers et membres d'équipage, totalisant de 190 personnes. Chers auditeurs, c'était l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Kamu bahagia mengenal diriku sama seperti aku bahagia mengenalmu. Tidak masalah berbeda dan ragu, kamu dan aku sama-sama mencari tahu kemana kita akan melangkah, menemukan apa dan berbuat apa. Kita generasi yang penuh harapan dan selalu mencari, ingin merasakan dahsyatnya dunia yang sebenarnya, dunianya kita. Kamu rasakan, aku pun rasakan, apa yang sangat menjadi pertanyaan kita. Genggam tanganku, menggapai mimpi, kamu dan aku sama-sama mencari tahu kemana kita akan melangkah, menemukan apa dan berbuat apa. Kita generasi yang penuh harapan dan selalu mencari, ingin merasakan dahsyatnya dunia yang sebenarnya, dunianya kita.
Voilà la chanson intitulée Générasi, chantée par Once. Générasi signifie la génération. Chers auditeurs, vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie à tout le monde. La rubrique suivante, voici mon Indonésie.
Sergem Longten, c'est le temps maintenant pour nous de vous présenter BUMN lance ligne Aja pour les paiements non monétaires. Après avoir été retardée, la plateforme de paiement non monétaire ligne Aja a finalement été officiellement lancée dimanche le 30 juin 2019 au stade Bung Karno à Jakarta. Le vice-président Yusuf Kalla, la ministre des entreprises appartenant à l'État, BUMN, Rini Sumarno, le ministre de la Communication et de l'Information, Riantara, et le ministre des Transports, Budi Karya Sumadi, assistaient au lancement officiel de la plateforme de paiement appartenant au gouvernement. Ling Aja est un système de paiement non monétaire développé par une société conjointe de 8 entreprises appartenant à l'État, BUMN, sous le nom de PT Fintech Karya Nusantara, en abrégé Finaria. Ling Aja permet aux utilisateurs de payer facilement les commerçants, acheter les impulsions, de payer ou d'acheter via la téléphone portable, de magasiner en ligne ou de partager de l'argent. Après le lancement, la ministre Rini Sumarno a déclaré qu'elle souhaitait faciliter l'accès aux services financiers non monétaires à tous les niveaux couches de la société par le biais de l'application de paiement en ligne électronique de Ling Aja. Bien que Ling Aja vienne d'être lancé, il peut déjà être utilisé pour effectuer des transactions à l'étranger, par exemple à Singapour. La cible Ling Aja sera également utilisée en Malaisie, à Hong Kong et à Taïwan, car il y a beaucoup de travailleurs migrants indonésiens dans ces pays. À la même occasion, le président directeur général de PT Fintech Karya Nusantara ou Finaria, Danu Wicaksana, a déclaré que des transactions à l'étranger pourraient être réalisées grâce à sa coopération avec des opérateurs étrangers. À Singapour, Finaria Société Anonyme a collaboré avec Singtel qui a déjà de nombreux marchands. Selon Danu, Ling Aja possède actuellement 22 millions d'utilisateurs. Finaria devrait atteindre près de 40 millions d'utilisateurs, soit près du double. Alors que la valeur moyenne de transactions Ling Aja atteint 1 milliard rupiah par jour. En outre, Rini Sumarno expliquait que ce système de paiement non monétaire visait à encourager l'augmentation de l'inclusion financière en Indonésie. L'enjeu est que les gens choisissent toujours de faire des transactions non monétaires. En 2018, environ 76% des transactions en Indonésie est toujours dominée par l'argent. Donc, il faut transition aux opérations non monétaires afin d'accroître l'inclusion financière dans la société. Serviteur, c'était mon Indonésie pour ce soir.
Voice of Indonesia.
Adakah aku di hatimu?
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia de l'Indonésie à tout le monde. Vous venez d'écouter la chanson de Sherina dont le titre est Symphonie Hitam ou en français La Symphonie Noire. Chers auditeurs, c'est le temps maintenant pour nous de vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale de peuple indonésien.
Bonsoir, chers auditeurs. C'est un plaisir de vous rencontrer à nouveau dans le magazine culturel, un programme quotidien sur le tourisme, l'alimentation ainsi que les arts et la culture de diverses régions d'Indonésie. Dans l'édition d'aujourd'hui, je vais vous inviter à visiter Bukit Pilar Angin. Garut, Dusut a encore beaucoup d'autres attractions touristiques qui ne sont pas largement connues par les touristes. L'un des sites touristiques qui est maintenant souvent visité par les touristes locaux est Bukit Pilar Angin. La colline est située derrière la colline de Cikajar dans le district de Cikelet, Garut, l'ouest de Java. Bukit Pilar Angin prend environ 3,5 heures en voiture à 104 km du centre de ville de Garut. Tout au long du voyage, de magnifiques paysages du sud de Garut vous seront présentés. La colline qui porte le surnom de Sumbawa Van Garut est très bien adaptée pour prendre des photos. L'herbe verte qui a tendance à jaunir en saison sèche devient le lieu d'un arrière-plan photographique dramatique et enchanteur. Le complexe de Bukit Pilar Angin n'a pas de service d'hôtel d'étoiles. Si vous vous ennuyez de la façon de vacances habituelle, vous pouvez faire de Bukit Pilar Angin comme destination pour l'aventure avec votre famille. Camping et profiter de la beauté du lever du soleil sur la colline avec une famille bien aimée deviendront une expérience inoubliable. Il est gratuit de profiter de la beauté de ces paysages. Si vous conduisez votre propre voiture, vous pouvez garer votre voiture sur les contreforts de colline. Alors, assurez-vous que ces vacances, vous sentez que la chaleur du soleil de Bukit Pilar Angin dans la province de Java Occidental. Chers auditeurs et chers auditeurs, c'était le magazine Cultural Park ce soir avec le titre Bukit Pilar Angin à Garut, Java Occidental. Demain, nous retrouverons avec un nouveau sujet plus intéressant encore. À bientôt!
Voice of Indonesia.
Jujurku dan tulus. katakan dengan lantang, biar semua gugusan bintang mendengar hatiku hanya mau.
Arman Maulana avec la chanson intitulée Perjalanan Cinta qui signifie l'histoire d'amour. Pour la rubrique suivante, voici Apprendre l'indonésien, une rubrique qui vous introduit des vocabulaires indonésiens et vous guide pour parler indonésien. Cette émission est une collaboration entre La Voix de l'Indonésie, la station de radiodiffusion à l'étranger de RRI, avec l'Agence nationale pour le développement et le renforcement de la langue du ministère de l'Éducation et de la Culture de la République de l'Indonésie.
Voice of Indonesia.
Bonsoir tous les amis, on se retrouve dans l'émission Apprendre l'Indonésien. Le sujet d'aujourd'hui et membeli kemeja. Je répète, membeli kemeja, qui signifie acheter une chemise. Je vais vous donner l'exemple d'une conversation intitulée membeli kemeja, ou en français acheter une chemise. Dans la boutique de batik à la rue de Malioboro, Enda et Tony a négocié des vêtements. Dans le dialogue, le vendeur a mentionné le prix de la chemise, c'est 120 000 rupiah. Enda a négocié le prix de la chemise en disant 80 000 ya. Je répète, 80 000 ya. C'est-à-dire 80 000 rupiah, d'accord? En Indonésie, quand vous achetez quelque chose et négociez le prix, vous pouvez mentionner le prix que vous voulez en forme de question. Par exemple, 100 000 ya, 100 000 ya, en français, 100 000 rupiah, d'accord? Ou, Bagaimana kalau 50.000? Bagaimana kalau 50.000? En français, comment 5.000 rupiah? En outre, pour négocier le prix, vous pouvez dire boleh kurang? Boleh kurang? Par exemple, Anda, berapa harga sepatu ini? Le vendeur, 200.000. Anda, boleh kurang? Le vendeur, maaf, tidak bisa. Harga pas. Harga pas, en français, prix fixé, c'est-à-dire le prix n'est pas négociable. Avant de terminer apprendre l'indonésien d'aujourd'hui, pour comprendre plus, écoutons encore une fois la conversation.
Kemeja itu berapa harganya, Mas?
120.000.
80.000 ya?
Oh, belum bisa. Satu saja.
Oke, saya ambil satu ya.
Chers amis, voilà l'édition de la rubrique Apprendre l'indonésien d'aujourd'hui. J'espère que cette édition pourra être utile pour ceux d'entre vous qui veulent savoir plus l'indonésien. On se retrouvera demain avec d'autres sujets intéressants. Merci beaucoup pour votre attention et à demain.
Celing mata, aduh mas senyum lagi, amboi nona manis sekali. Hey dia tengok kita, hey dia celing mata, aduh mas senyum lagi, amboi nona manis sekali. Dia mengernyit, amboi ma aku dicubit. Siapa dia, oh putri remaja. Hey dia malu-malu, di balik selendang yang biru. Hey dia senyum padaku, itulah gadis impianku. Senyum lagi, amboi nona manis sekali. Dia mengernyit, amboi ma aku dicubit. Siapa dia, oh putri remaja. Hey, dia malu-malu, di balik selendang yang biru. Hey, dia senyum padaku, itulah gadis impianku.
Voice of Indonesia.
Takdir kita telah berkata, kau hadir di sini melengkapi aku. Pernahku duga Habis aku tak menyangka hatimu untukku hampir saja kau menghilang. Takdir kita telah berkata kau hadir di sini melengkapi aku. Garis tanganku telah memilih kamu untuk lebih jauh mendekati aku. Kini garis tanganku telah memilih kamu hidup di dalam hatiku. Nyaris tak pernah ku sadar cintamu untukku, sungguh tak pernah ku duga. Nyaris aku tak menyangka hatimu untukku hampir saja kau menghilang. Takdir kita telah berkata kau hadir di sini melengkapi aku. Kini garis tanganku telah memilih kamu untuk lebih jauh mendekati aku.
Voilà, garis tangan, qui signifie ligne à main, chantée par Geisha. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'onde courte de 3,3 de 5 kHz, et vous pouvez écouter notre émission sur le site de www.voinews.id. Nous continuons notre programme avec les informations musicales. Pour ce soir, je vais vous présenter la chanson de Kalimantan du Nord.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia de l'Indonésie à tout le monde. Chers auditeurs, je vais vous présenter la chanson intitulée Leleng Uyau Along. Leleng Uyau Along est une chanson de la tribu Dayak Kenya de la province de Kalimantan du Nord. Cette chanson a été chantée par Uyau Maurice, jeune musicien qui présente la culture des Dayak Kenya dans diverses régions du monde. Cette chanson raconte d'un orphelin qui tente de se réconforter. Il invite ses amis à danser et à chanter ensemble en cercle. Selon Uyau Maurice, cette chanson a une autre version, à savoir Leleng Utan Along. La différence réside dans les mots Uyau et Utan. Le mot Uyau désigne les garçons orphelins, tandis que Utan désigne les filles orphelines. Chers amis, écoutons la chanson dont le titre est Leleng Uyau Along, accompagné par les mélodieuses de sapé, un instrument de musique typique de Dayak. Bonne écoute!
Voice of Indonesia. Of Indonesia.
Indah, indah, indah.
Chers auditeurs, c'est toute l'émission quotidienne en français pour ce soir. Rendez-vous demain dans la même heure et la même fréquence. Et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et de commenter à notre Facebook de Voice of Indonesia. Au revoir.